Bien, bonsoir. Donc, j'inaugure ce cycle de séminaire avec une discipline un petit peu exotique, parce qu'on dit toujours que, bien, si j'avais pu choisir, je serais devenue archéologue. Donc, je l'ai choisi. Hein, c'est une profession pas libérale, mais délibérée. Quand on dit archéologue, on sait un petit peu, enfin, pas à l'origine. Quand on commence ses études d'archéologie, on a un idéal qu'on poursuit par la suite, mais avec des contraintes qui sont plus matérielles et qui sont plus dépendantes de la pratique de la discipline au quotidien. Donc, j'ai intitulé cet exposé « L'archéologie de l'exhumation à la transmission des faits » parce qu'actuellement, l'archéologie souffre malheureusement encore d'une image un petit peu passéiste, de chercheurs de trésors, de vieux monsieur un peu poussiéreux, de gens qui ont beaucoup de patience. Alors l'archéologue n'a pas de patience. L'archéologue est aussi pressé que n'importe qui d'accéder à ce qu'il va découvrir. Et vous le verrez, nous n'utilisons plus de pinceaux et de brosses à dents comme outil de découverte, bien évidemment. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est une discipline exotique, comme je l'ai dit, mais qui doit vivre aussi au quotidien, dans le quotidien de chacun, parce que ça permet finalement de créer une histoire commune. Moi, je vais essentiellement vous parler de l'archéologie en Centre-Île-de-France, enfin en Île-de-France, donc dans la banlieue, dans une banlieue qui est décriée, qu'on dit sans racines, sans histoire, alors que pas du tout, et au quotidien, au jour le jour, on permet à cette histoire de ressurgir, on propose à chacun des archives qui sont les archives du sous-sol, et tous ces gens qui habitent en banlieue, qui sont d'horizons différents, finissent par se créer une histoire commune et sans doute un futur en commun. Et voilà tout l'intérêt de l'archéologie, c'est qu'en réfléchissant sur ce qui s'est passé, on essaye de comprendre ce qui nous arrive et on pourrait peut-être rectifier ce qui pourrait nous arriver. Donc l'archéologie est une discipline et aussi des métiers. Alors les origines, bon, la définition de l'archéologie, c'est la recherche, la collecte, l'étude et l'analyse des vestiges matériels des sociétés humaines. Donc effectivement, on parle exclusivement de cultures matérielles qui vont être représentatives de sociétés. L'historique, bon, juste au Moyen-Âge, je vais un petit peu repartir en arrière, on n'avait pas cette conscience d'un homme ancien, puisqu'on est dans une société extrêmement rigidifiée, dans des codes qui sont dirigés par la religion, donc on est dans une histoire de la Bible. Vers le 16e, 17e, on commence à peut-être avoir cette idée d'un homme ancien, et à partir de ce moment-là, tous les objets qu'on a trouvés perdent un aspect magique. Par exemple, quand on trouvait un silex taillé, un biface, vers la fin du Moyen-Âge, on appelait ça une pierre de foudre. On disait que c'était la foudre qu'il avait créée en frappant le sol, et on lui donnait un aspect magique. C'était un gris, ça avait un pouvoir. Ensuite, au 16e, 17e, il y a eu les premiers cabinets des collectionneurs, les premiers cabinets d'antiquaires, et ça a été le début de la folie pour les antiquités telles qu'on les connaît, les antiquités grecques et romaines, et c'est à ce moment-là, effectivement, que toute l'antiquité a commencé à ressurgir. Mais jusqu'à dans ces périodes-là, on n'a pas une idée d'aller rechercher les traces du passé, d'essayer de les analyser ou de les comprendre. On vit un petit peu au jour le jour, et ce n'est pas une nécessité de savoir ce qui s'est passé avant, puisqu'on est toujours sur ces schémas d'une histoire biblique. Sauf, bien évidemment, on a un petit peu besoin de son histoire quand on a besoin d'asseoir un pouvoir politique, d'où les chronologies des rois, et tout est basé sur des chronologies et des arbres généalogiques. Donc le principe de l'archéologie moderne, les principes sont arrivés au 19e siècle, c'est à ce moment-là qu'on a cette idée d'un homme ancien et d'une ancienneté de l'humanité, et qu'on va commencer à ramasser principalement des objets préhistoriques, donc des silex taillés, qu'on ramassera comme ça uniquement les beaux objets, les objets qui sont reconnaissables, et on essaiera aussi d'y associer une première étude de la géologie. Donc, comme vous le voyez sur l'image, l'archéologue du 19e et du début du 20e siècle est en noir et blanc et barbu. Je ne suis pas en noir et blanc, je ne suis pas barbu, d'une fille. Donc, effectivement, depuis le début du XXe siècle, bien évidemment, la profession s'est féminisée. Alors, la pratique de l'archéologie, c'est une affaire de groupe. Ce n'est pas une secte, l'archéologie, c'est une famille. Il y a beaucoup de métiers de l'archéologie, qui à la base sont de compétences chronoculturelles. C'est-à-dire qu'on va avoir une spécialité sur une période donnée. Donc on peut être préhistorien, néolithicien, proto-historien, donc là je m'arrête un tout petit peu. C'est une discipline qui n'est pas enseignée à l'école, c'est juste la période qui va du néolithique jusqu'à la conquête romaine. On est dans la proto-histoire, on n'est pas encore vraiment dans l'histoire parce qu'on n'a pas vraiment de texte qui relaie ce qui s'y passe, mais on est dans une période charnière qui va donc concerner le néolithique et les âges des métaux, c'est-à-dire l'âge du bronze et l'âge du fer. Ensuite, on peut être antiquisant, médiéviste, moderniste, mais on peut aussi être archéologue contemporain parce que maintenant, on fouille des structures contemporaines parce que c'est un moyen de valider des modèles et de faire des comparaisons par rapport à des recherches qu'on ferait sur d'autres périodes. On est toujours dans une question de modèle parce qu'il faut toujours qu'on se réfère à quelque chose, d'où l'intérêt de savoir ce qui s'est passé avant et comment ça va évoluer. Ensuite, il y a de nouveaux champs d'exploration qui sont ouverts en installant des axes transverses avec les sciences plus dures, ce qu'on appelle les sciences dures, parce que l'archéologie, c'est les sciences humaines. Donc, on peut être géo-archéologue, archéozoologue, anthracologue. Alors, l'anthracologue étudie le charbon de bois. Oui, un charbon de bois, ça parle aussi, ça raconte une histoire. On peut être céramologue, carpologue, c'est-à-dire étudier les graines, malacologue, les coquillages, anthropologue, les squelettes. Tracéologue, ça c'est bien spécifique, c'est étudier sur les silex taillés les traces laissées par l'activité humaine. Donc ça c'est vraiment une spécialité extrêmement pointue. On peut être lithicien, étudier les silex, et xylologue, étudier les bois. Donc vous voyez, mais ça c'est déclinable à l'infini, bien évidemment cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est montrer à quel point l'archéologie s'est diversifiée et permet d'énormes champs d'exploration. Donc là, je vais vous présenter un exemple concret parce que finalement, l'archéologie, c'est de travailler sur des objets, sur des choses concrètes, sur des structures. Donc là, cette présentation a été constituée par Jacques Le Griel, qui a été responsable sur l'opération du diagnostic de la plaine du Moulin Avant à Cesson. Et c'est pour vous montrer quelles sont les méthodes qu'on met en place pour réaliser un diagnostic archéologique. Parce que bon, moi je suis archéologue en archéologie préventive, c'est-à-dire que j'interviens sur des secteurs où on va construire, donc détruire le sous-sol. Pourquoi c'est important d'intervenir? Parce que par exemple, depuis les 50 dernières années, on a plus détruit de sites archéologiques que depuis 2000 ans. Parce que maintenant, jusqu'à présent, quand on construisait un pavillon, on faisait son petit sous-sol et le terrain autour n'était pas détruit. Oui, mais maintenant on va faire des immeubles, on va faire 1, 2, 3 niveaux de parking. Et ces niveaux de parking vont être rédhibitoires pour l'archéologie, plus rien ne va subsister. Donc il faut bien être conscient que l'augmentation de la population, l'urbanisme anarchique qui s'est imposé à nous depuis les 30-40 dernières années, ont détruit de manière irrémédiable des pans entiers de notre histoire. Donc l'archéologue préventif a deux manières intervient déjà dans une phase qu'on va appeler un diagnostic. C'est exactement comme un médecin. Savoir si on est malade, on va essayer de voir quelles sont les pathologies. Donc là, l'archéologue fait de la même manière. Il va aborder son terrain en faisant des sondages de telle sorte d'avoir un effet statistique et de déterminer quelles sont les périodes représentées sur un terrain pour savoir si ensuite on va intervenir et faire une fouille. Donc voilà la localisation géographique de ce grand rectangle que vous voyez à droite, qui est l'emprise du diagnostic. Donc pour ceux qui ne savent pas, là on est à Melun-Sénart. On est donc au sud-ouest du département de Seine-et-Marne. Alors voilà à quoi ressemble un diagnostic archéologique. Un champ qui ne devrait rien receler, hein. Il n'y a pas de vestige apparent. Là, on est vraiment dans l'insoupçonné, l'insoupçonnable. On va révéler ce qui se passe en dessous. Et vous voyez, ces pelles mécaniques qui sont, alors on va être un peu technique, on a là sur la photo trois pelles mécaniques qui font 20 tonnes. Voilà, ça c'est l'outil de l'archéologue du 21e siècle. C'est fini, on utilise des pinceaux vraiment à la phase ultime du mini-objet. Voilà pourquoi je vous disais en préambule que non, l'archéologue n'est pas si patient que ça. Effectivement, ça a peut-être attendu 2000, 5000 ans pour que nous arrivions, mais une fois qu'on est là, on veut que ça sorte. Donc sur l'image de droite, vous voyez ce plan, sur lequel il y a un certain nombre de tranchées, voilà, donc c'est la façon dont nous avons d'intervenir pour révéler ce qu'il y a dans le sous-sol. Et les petits rectangles noirs que vous voyez un petit peu partout sont en fait des fenêtres d'élargissement qui ont permis de vérifier s'il n'y avait ou pas des vestiges supplémentaires. Donc on les fait bien évidemment quand on découvre des vestiges. Donc voilà, une très belle photo aérienne d'un diagnostic. Celui-ci devait faire entre 160 et 200 hectares. Donc là, c'est vraiment une très grosse surface qui a été traitée. Donc, alors, ces statistiques, on fait une tranchée de 2 mètres de large tous les 20 mètres, ce qui fait à peu près 10% du terrain sondé. Donc, avec ces 10%, c'est bol ou pas de bol, on trouve, on ne trouve pas, mais ce sera la seule manière qu'on aura de révéler la présence de vestiges archéologiques. Voilà une autre vue de ce diagnostic. Alors, vous voyez en arrière-plan, sur la gauche, la ville nouvelle de Melun-Sénart. Voilà, il y a eu des occupations sur ce territoire il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, parce qu'il y a du paléolithique, on va en parler. Et déjà, derrière, il y a une nouvelle transformation. La ville nouvelle reconquiert des territoires qui ont été abandonnés au fil du temps. Donc ici, donc, je vous disais, la préhistoire. Alors, comment on va lire la préhistoire ? Quand on réalise nos tranchées, on va descendre à une certaine profondeur. Sur l'image de gauche, vous voyez marqué log stratigraphique, et vous vous rendez compte avec l'échelle qui est à côté que les vestiges préhistoriques se situent à plus de 3 mètres de profondeur. Donc là, bien évidemment, on n'y va pas au petit bonheur la chance avec nos baguettes de sourcier, bien que ça puisse marcher, mais c'est avec la capitalisation de l'expérience de générations d'archéologues qui sont succédés, on commence de mieux en mieux, en travaillant avec les géologues, à bien connaître les terrains et à se dire que certains terrains ont une capacité à recéler des vestiges. Donc là, on a toute la déclinaison des sols qui se sont succédés pour descendre sur des vestiges, des vestiges qui ont entre 200 000 et 300 000 ans. Donc là, vous me direz, bon, bah, d'accord, vous avez vu une couche noire dans le sol, mais qu'est-ce qui peut dire que c'est préhistorique ou pas ? Donc déjà, là, à force de rencontrer ce type de vestiges, on finit par accumuler ces données, et donc ça sert. C'est ça l'expérience. Et c'est toute cette capitalisation qui va permettre ensuite d'être beaucoup plus efficace. Mais cette fois-ci, c'était bien évidemment associé à des vestiges, et là, vous voyez, là, moustérien, excuse-moi, assistant, la période. Des fois, j'ai des petits trous. Voilà. Donc là, ce sont des vestiges qui ont 50 000 ans. Donc, on est sur une industrie lithique, c'est-à-dire des silex taillés spécifiques qui ne n'ont été utilisés qu'à cette période-là. Donc là aussi, c'est transformation-évolution, parce qu'à chaque période donnée de la préhistoire, on va avoir un type d'outillage de silex spécifique. Donc en bas, les fameux bifaces, qui sont sans doute les plus représentatifs, et ceux qu'on ramassait préférentiellement au 19e siècle, parce qu'on les reconnaissait. Tous les objets en silex qu'on a au-dessus l'étaient rarement parce que beaucoup plus discrets. Donc ici, un plan général, vous voyez, de ces différentes fenêtres. On peut commencer à faire un zonage chronologique avec le vert bronze final. Alors, le RSFO, c'est une culture du bronze final qui s'appelle en fait le Rhin suisse France orientale, de la région dans laquelle il a été mis en évidence. Ensuite, du Hallstatt moyen, c'est-à-dire qu'on est au premier âge du fer, toujours site éponyme du Hallstatt. Ensuite, telle ancienne, c'est-à-dire qu'on est dans le second âge du fer, on est en pleine période gauloise. Et ensuite, une nécropole à incinération qui, je crois, est de l'âge du bronze et qui sera caractérisée. Donc voilà comment aussi on caractérise ensuite les sites. Si, à la préhistoire, bien évidemment, on n'a pas de céramique, la céramique apparaît au néolithique avec la sédentarisation, c'est-à-dire que tous les processus d'évolution de l'humanité sont liés à des découvertes et des avancées technologiques. Donc, tant qu'on était nomade, ben, on taillait ses cailloux, c'était une matière première facile à traiter. À partir du moment où on va sédentariser, on va avoir du temps pour développer d'autres techniques, dont la céramique, qui maintenant est pour nous historiquement, archéologiquement ou chronologiquement, un marqueur qui est extrêmement important. C'est un marqueur très parlant, parce que c'est comme la mode. Finalement, nous, actuellement, ben, quand on voit quelqu'un habillé années 70, on sait qu'il est habillé années 70. Ben, quand on rencontre un certain type de céramique, on sait dans quelle période on se situe. Donc là, ici, de la céramique caractéristique de l'âge du bronze. Donc, vous voyez ici la localisation sur les tranchées, avec les numéros de tranchées. Pour nous, c'est un repère important de ces localisations du site d'Athènes ancienne. Ensuite, sur cette haine ancienne dite B1, bon, ça, c'est du langage d'archéologue. Parce que l'archéologue, finalement, il souffre, hein, comme tout le monde, de vouloir toujours mettre des choses dans des boîtes. Donc, on va découper les périodes en petites tranches pour être plus facile, pour plus facilement ranger ce qu'on trouve. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur l'image de gauche, c'est un silo. Donc, un silo, normalement, sa fonction première, c'est de recevoir du grain et de le conserver. Ce sont des structures qui apparaissent dès le néolithique et qui vont perdurer jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Mais nous, l'intérêt, finalement, en archéologie, c'est que nous ne connaissons jamais ou très rarement les structures par leur utilisation première, mais par leur réutilisation en dépotoir. Et l'archéologue aime la poubelle, parce que finalement, on est ce qu'on jette. Et dans notre société de consommation, c'est particulièrement important de se le dire, vous êtes ce que vous jetez. Si je viens chez vous, que je prends votre poubelle, et que je commence à vider votre sale poubelle, je peux vous raconter votre vie. Ça fait réfléchir. Parce que ça fait réfléchir par rapport à l'impact qu'on va avoir sur l'environnement, par rapport à la façon dont on va consommer. Et là, finalement, les Gaulois de la Athènes ancienne vont nous raconter comment ils ont vécu, avec qui ils vont échanger, quel type de céramique ils vont préférer, quelle activité ils vont avoir. Et à chaque structure qui a servi de dépotoir qu'on va fouiller, on va pouvoir aussi attacher effectivement une activité. Donc là, on voit sur l'image de droite deux céramiques. Une fusaïole qui sert à filer la laine et un peson qui sert à monter un métier à tisser pour faire du tissu. Donc on sait déjà que sur ce site, on a probablement élevé des moutons, on a probablement produit de la laine et on a fait du tissu. Vous voyez, il y a toute une chronologie des événements qui se met en place de cette manière-là. Donc la nécropole à incinération du bronze moyen qu'on voyait sur le plan. Alors c'est pas super... comment dire ? Très visible, on peut vraiment passer à côté. C'est très ténu hein, comme structure. Voilà, vous voyez à gauche, sur la première vue, à gauche, on voit juste un cercle noir qui est en fait la céramique qui contenait les ossements du défunt qui a été décapité. Et on voit là par-dessus, sur la photo 5, où on ne voit que le dépôt osseux, parce qu'il y a deux types de contenants à l'âge du bronze pour les incinérations. Donc après avoir été brûlé sur le bûcher, les os sont récoltés, soit mis dans un contenant dur, donc qui va être une céramique généralement, mais une céramique réutilisée. Il n'est pas sûr à cette période-là qu'on ait fait des urnes spécifiques pour une inhumation. On va prendre un contenant qui est déjà utilisé et qui est, ou alors aller acheter un contenant, mais dont la finalité n'est pas d'être une urne funéraire. Ou alors on va mettre les restes du défunt dans un contenant périssable, qui peut être un panier ou un sac en cuir. Donc on a ces deux difficultés à lire le terrain au moment de la découverte, et aussi toujours sur ces 10% d'incidence statistique, la possibilité de le trouver ou pas. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a travaillé dessus en laboratoire. Donc à gauche, vous avez une vue du dépôt osseux, et ensuite différentes phases de la fouille, et à droite, en 4, le contenant dans lequel était l'incinération. Alors moi, ça m'a toujours semblé un petit peu ésotérique, hein, la fouille des incinérations, mais bien effectivement, l'anthropologue spécialiste de la fouille de ce type de structure peut déterminer les gestes funéraires qui ont participé à la crémation du défunt. On est vraiment là dans une interprétation de caractère discret, mais qui permet vraiment de retracer tout le processus de crémation. Donc là, toujours sur ce site, Là, ça vous montre quand même que sur ces 150 hectares, il y a une occupation permanente. Là où vous voyez des champs, il y a eu des gens à un moment, ça a été abandonné, la nature a repris ses droits, et finalement, on va réintroduire, comme je vous l'ai dit, de nouveau des activités, de nouveau... l'histoire ne s'arrête jamais, on est en perpétuel recommencement. Et donc là, nous avons un bâtiment gallo-romain. Bon, c'est gallo-romain, c'est un bâtiment, il y a des pierres. C'est un peu moins discret comme critère de distinction. Voilà, donc en conclusion, au final, vous voyez, toutes ces différentes installations, au fond, une ferme du 19e, parce que c'est aussi de l'archéologie, un établissement du Haut Empire, du Hallstatt moyen, du bronze final, un paléosol véchélien, donc la préhistoire, l'Athènes ancienne, différents établissements qui ont été soit contemporains, parce qu'il y a quand même une occupation du territoire qui peut être assez importante, ou qui sont succédés, puis le Bas-Empire, et là, en premier plan, la nécropole incinération. Donc là, je vais vous présenter un deuxième cas sur lequel je travaille avec l'INRAP et le service archéologique de la ville de Chelles. deux sites principaux qui sont 30-32 rue du Savenast, dont je vous mets des mètres carrés fouillés. Parce que là, voilà, on va opposer deux archéologies. L'archéologie de grands territoires, de grands espaces, dite l'archéologie rurale, qui permet d'avoir une réflexion différente. Pardon. Parce qu'on va travailler sur les grands espaces et on va travailler sur du spatial. On va faire une analyse spatiale de la façon dont les vestiges, dont les structures dont on a sont installées, dont on a organisé le territoire. Alors, sur la fouille qu'on va aborder là, c'est de l'archéologie dite urbaine, parce qu'elle est en ville, mais ça ne veut pas dire que la ville a toujours été là. Mais c'est le contexte actuel qui est urbain et qui va rendre beaucoup plus difficile l'accès aux vestiges parce qu'on travaille dans des espaces excessivement contraints. Donc là, 3000 m², c'est beaucoup moins que 150 hectares. Et ensuite, encore plus petit, mais je ne vous présenterai qu'un objet de cette fouille parce que là, c'était justement lui, il pose question et il amène à réfléchir aussi, 1000 m² de fouillés. Donc, Chelles-Gournel, la Marne aux origines de la ville, intervention en contexte fortement remodelé. Donc voilà, actuellement Chelles, c'est ça, c'est une ville qui s'est beaucoup développée depuis le début du XXe siècle, après l'arrivée du train. On est en banlieue, donc il y a eu des contraintes d'urbanisation. Vous voyez ici, on repart en arrière, sur la photo de droite, donc une photo vue du ciel avec les rues, les pavillons, les enchevêtrements. Et sur la gauche, alors c'est un peu discret, j'avais pas mis une couleur très forte, ici, le 30-32 rue Gustave-Nast est ici, c'est cette surface-là, où en fait on a eu la chance que ce terrain ne soit que très très peu occupé depuis l'Antiquité, et que juste une ferme se soit installée là en 1865, et l'autre emprise est ici, dans une zone ici un petit peu en périphérie. Mais vous voyez, bon, tissu urbain très dense, on se dit, bon, on ne peut plus rien trouver. Donc voici les 3000 m² de la ferme et les 1000 m² de la rue des Sources. Alors comme son nom l'indique, rue des Sources, c'était très unique aussi. Quand on commence à faire une étude archéologique, au préalable, on essaye aussi de se baser sur ce qui existe quand même en documentation. Donc là, au niveau de l'archéologie, ça va être surtout la cartographie qui va être importante. Bon, de tout temps, on a dit que Chelles, c'était une zone marécageuse, sans attrait. Jusqu'à il y a 20 ans, alors qu'il y avait déjà eu des fouilles, on était toujours sur cette idée de terrain humide et inoccupé. Je ne me trompe pas. Je demande à l'archéologue municipal présent aujourd'hui dans la salle de confirmer ma présentation. Et donc on voit sur l'image de gauche, qui est un plan du 18e, qu'effectivement il y a un réseau hydrographique omniprésent et que Chelles c'était une sorte de Venise de la Seine-et-Marne où il y avait beaucoup de chenaux, beaucoup de canaux. Et on voit sur le plan de droite, à l'emplacement du centre-ville actuel où se situe une abbaye royale, effectivement, il y a eu beaucoup de paléochenaux et de canaux qui ont été aménagés, canalisés, voire qui ont été bouchés au fur et à mesure. Donc on avait toujours eu ce sentiment sur Chelles qu'il y avait des milieux humides, qu'il y avait des choses à nous dire. Les milieux humides sont progressivement colmatés, mais l'eau est toujours restée en dessous. Ce qui va me permettre de vous présenter des vestiges vraiment exceptionnels. Bon, vous voyez où coule la Marne aujourd'hui. La Marne coule ici au sud. Actuellement, vous l'avez vu sur la photo aérienne, il n'y a plus aucun cours d'eau qui passe en Chelles. C'est voilà, le dernier canal qui coule encore dans Chelles est souterrain, a été canalisé, bétonné, donc il n'y a plus aucun cours d'eau. Donc on n'a absolument aucune idée de ce qui. On n'avait aucune idée de ce qui pouvait s'y passer. Et les fouilles antérieures, pardon, n'avaient pas amené ce genre d'indice. Donc voilà les conditions de la fouille du port antique de Chelles. Parce qu'en fait, c'est de ça dont on va parler. On a mis au jour à Chelles, en plein centre-ville, à 2 km du cours actuel de la Marne, un port, qui a servi à des appontements du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ au milieu du 1er siècle après. Donc voilà, on est vraiment dans des vestiges exceptionnels et insoupçonnés. Donc les conditions de la fouille, rien à voir avec des pêcheurs bretons, mais on a utilisé les mêmes codes vestimentaires pour pouvoir s'en sortir. Alors moi je dis toujours, je préfère fouiller la boue, parce que la boue recèle les trésors et c'est pas décevant, c'est toujours mouillé, c'est toujours humide, il n'y a pas de surprise. Contrairement à la fouille de plateau, comme on a vu tout à l'heure, qui devient, parce que le sédiment de plateau, c'est du béton l'été, et dès qu'il pleut un petit peu, c'est super glissant et c'est de la galerie. Donc là, on sait à quoi on va s'attendre, fouille humide, et puis là, je rends aussi hommage à mes collègues qui m'ont supporté pendant plusieurs mois, parce qu'on a quand même passé tout un hiver dehors dans la boue. Donc voilà, on continue à casser l'image de l'archéologue, son pinceau, l'Égypte. L'Égypte, c'est pas ça. Et ça, c'est en Île-de-France, à quelques kilomètres de Paris. Donc voici à quoi ressemblait une partie de la fouille. Et donc voici cette espèce de tumulus, si vous voyez ici. En fait, ici, il faut imaginer que c'était la marne. Ici, ce sont les berges. Et là, il y a les quatre états successifs de l'appontement. Donc le premier état, qui est d'environ moins 50. Le deuxième état, qui a été fait construit entre le printemps et l'automne 26, avant Jésus-Christ. Alors, si je suis aussi précise, c'est que tous les éléments en bois, je vous ai parlé tout à l'heure d'une spécialité qui s'appelle la xylologie. Donc déjà, on a une xylologue qui est venue étudier les éléments en bois. Alors, ça recèle aussi de milliers d'informations, parce qu'on a aussi les traces des outils. Donc, on peut savoir quels outils ont permis de construire, comment ça a été découpé, à quelle période. Et il y a une autre spécialité dont je ne vous ai pas parlé, la dendrochronologie et la dendrologie. Alors, la dendrochronologie, comme son nom l'indique, ça permet de dater par rapport au cerne de croissance des arbres. Donc là, on avait des gros éléments en bois qui nous ont permis de dater. Et la dendrologie, qui est la petite sœur de la dendrochronologie, permet d'étudier la façon dont on va gérer l'environnement. Parce que maintenant, on le fait, on trouve que c'est normal, mais dès l'Antiquité, on a appris à gérer son environnement. Et il y a une gestion du bois. On va choisir le bois parce que selon qu'il a une croissance rapide ou lente, le bois n'aura pas la même utilisation. Donc tout ça, c'est intéressant. Et tout ça, ça peut être dit par les vestiges archéologiques. Donc ici, cet état 2, daté de moins 26 par la dendrochronologie. Le deuxième état, il est de plus 15, plus 16. Et le quatrième état, il est de plus 50. Donc là, on est dans une chronologie courte, mais on a la possibilité de le faire. Et ça, c'est un petit peu une fierté de toute l'équipe qui a travaillé sur cette opération. Je vais en reparler plus tard, mais déjà, on va essayer d'expliquer pourquoi... Donc voilà l'état 2. Et c'est une très grosse structure qu'on n'a pas eue en entier. Hein, ça partait chez le voisin, mais on ne pouvait pas aller faire le trou chez le voisin. C'est une très grosse structure en bois planifiée. Donc on imagine derrière qu'il y a un architecte, une sélection, une équipe. Vraiment, ça implique des nécessités techniques pour construire cette structure. Donc on a aussi déterminé que ça pouvait permettre d'accueillir des bateaux qui faisaient plus de 20 mètres de long. Donc on a toute cette idée de commerce, de transport, d'échange qui est extrêmement importante. Et donc là, si on veut la comparer, dans les comparaisons, on a à peu près trouvé le même type de structure dans le port de Londres. Donc on ne se situe pas non plus dans la même échelle de ville entre Shell et Londres, mais on se dit que ça avait une certaine importance à l'époque. Et toutes les études qu'on va avoir, c'est toujours en cours d'études et toujours tout n'est pas publié. La démarche a été d'essayer de comprendre pourquoi la rivière avait disparu progressivement de cet endroit. Et donc, on a travaillé avec quelqu'un spécialisé qui fait sa thèse sur la géoarchéologie de la vallée de la Marne, qui s'appelle Yann Lejeune. Et Yann a réussi à mettre en place un modèle qui montre que si les cours d'eau se sont colmatés et si on a des crues, c'est dû à l'action de l'homme sur son environnement. En fait, on n'est jamais innocent. Et on est puni par là où on a pêché, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment, au néolithique, à partir du moment où l'homme va sédentariser et qu'il va commencer à cultiver les terrains, il va ouvrir les terrains et créer l'érosion. Donc ça va mettre un certain temps. Mais au bout de 1500-2000 ans, à l'âge du bronze, les premiers sédiments vont commencer à boucher les rivières, à faire en sorte que les rivières se décalent et surtout débordent. Donc on est vraiment, et ça on peut le prouver archéologiquement parce qu'on a les traces, on est vraiment dans cette action de l'homme sur son environnement. Et c'est en ça que l'archéologie aussi devient moderne, puisqu'on est dans des questions qui sont tout à fait actuelles. Et si on est dans un secteur qui a été inondé parce qu'il y a eu une coulée de boue, eh bien, on se rend compte que c'est un secteur qui n'avait jamais été occupé parce qu'on savait qu'il ne fallait pas s'y installer. Les gens avaient une connaissance du terrain. Et il faut respecter cette connaissance du terrain. On ne peut pas s'installer n'importe où, ni n'importe comment. Et donc l'archéologie, je l'ai dit, nous force à réfléchir sur ce qui nous arrive maintenant et pourrait nous aider à construire ce qu'on voudrait plus tard. Donc là, ici, l'état 2, donc à gauche la berge et à droite la rivière et les états successifs. Voilà une autre vue. voyez, on est à environ 2 mètres de profondeur. Et donc, c'est le niveau permanent de la nappe alluviale depuis 2000 ans. L'eau n'est jamais descendue plus bas. Donc, pour pouvoir travailler dans cet environnement, on a pompé 24 heures sur 24 pendant 7 mois. On a pompé la rivière. Donc, à pomper la rivière, ça ne s'en va jamais. C'est toujours l'eau de la Marne qui passe à cet endroit-là. Donc, le troisième état. Alors, le troisième état était intéressant. Bon, vous en avez une vue. Donc, ça va être très, très long à expliquer. Je vais faire un raccourci. C'est intéressant, c'est qu'à partir du moment où l'état 2, qui était ce gros quai qui a reçu beaucoup de bateaux, a commencé à s'enliser, ils se sont posés des questions, mais il fallait que le port continue à fonctionner. Mais bien évidemment, on est à peu près 40 ans plus tard, on n'a sans doute plus les mêmes moyens financiers, parce que la finance rentre toujours en état de compte, hein, dans tout ce qu'on peut découvrir, et sans doute pas les mêmes techniciens ni les mêmes architectes. Donc ils ont reproduit cette structure, mais avec des éléments plus opportunistes, en récupérant des planches, des éléments qui avaient déjà servi, et l'élément là qui est présenté à droite, et un réemploi. Donc on réutilise, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout ce... Et c'est toujours cette chose-là, c'est de récupérer des choses pour reconstruire. Bon, bien évidemment, l'histoire a montré que cette reconstruction qui était moins habile, hein, vous voyez que les choses se superposent, se chevauchent, ont glissé, c'est pas très très bien construit. L'histoire a montré que ça n'avait pas duré très longtemps et il y a un quatrième état qui va être construit vers 50 et on pense que vers 60-80, ils ont jeté l'éponge. Alors on ne sait pas. Ça, c'est un peu les conclusions de l'étude que l'on mène. C'est de se dire, soit le port est déplacé ailleurs, soit on abandonne tout à fait l'idée d'y installer quelque chose, soit le statut de la ville a changé. Parce que la construction du second état qui est tellement bien organisée correspond à la romanisation de la ville et à une nouvelle organisation de la ville qui se superpose déjà à une ville gauloise. Vous voyez, il y a toujours une réutilisation des lieux, comme nous on l'a vu, qui Chelles est occupée depuis 400 000 ans avant Jésus-Christ. C'est vraiment un lieu qui est apporté parce qu'on est près de la rivière. D'où l'intérêt de dire que la rivière à l'origine de la ville. Donc une vue d'un collègue qui a idéalisé, mais bon, on pense que globalement, d'après les données archéologiques, voilà à quoi pouvait ressembler le port de Chelles, puisqu'on a effectivement trouvé des emplacements de deux bâtiments en arrière du quai. Alors, rapidement, la deuxième fouille des 1000 m² que je vous ai rapidement présentée a surtout, bon, elle aurait été toujours dans des conditions assez ubuesques, mais je ne voulais pas trop rentrer dans l'anecdotique. Alors voici un objet qui fait beaucoup les dents, qui a discuté. C'est une serrure poteau en bois. Donc là, vous n'avez peut-être pas l'idée de l'échelle, mais ça fait 1,65 m de haut. Donc c'est un gros objet en bois qui est daté. Bon, on n'a pas pu faire dedans de gros chronologie parce qu'elle ne rentrait pas dans les courbes de référence. Mais stratigraphiquement parlant, c'est-à-dire par rapport aux autres éléments qu'on a mis au jour sur la fouille, elle sera plutôt du Bas-Empire. Donc on est entre le 5e et le 6e siècle. Enfin, 4e et 7e, on va faire une fourchette large, hein, ce problème de datation reste en suspens. Alors c'est un élément, vous voyez, travailler dans les milieux humides, ça apporte ça. C'est-à-dire que quand on est sur les plateaux dans les milieux secs, tout ce qui est organique a été détruit. Donc on n'a rien. Alors on va avoir les silex, la céramique, les objets en métal, des structures, des creux, du charbon de bois, des graines quand elles sont carbonisées. On reste dans un panel qui est assez redondant et assez classique. À partir du moment où on va travailler sur les milieux humides, bien on va avoir du bois, on va avoir du cuir, on peut avoir du tissu. Alors sur les bois qu'on a sortis sur la fouille de Chelles, on a même sorti les champignons parasites du bois d'il y a 2000 ans. Donc tout est extrêmement bien conservé. Donc c'est complémentaire. Alors c'est une archéologie coûteuse, parce qu'on est quand même obligé de le dire, hein, le nerf de la guerre pour tout le monde, c'est l'argent. Et ça restera un problème pour l'archéologie pour son devenir. Peut-être ce qui pourrait aussi faire débat, c'est de se dire, ben ça c'est un petit peu la danseuse de la culture. Parce que il y a plus de destruction archéologique que de fouilles. C'est parce qu'on voudrait nous faire croire qu'on fouille trop. Non, on ne fouille pas trop. On fouille ce qu'on nous laisse le droit de fouiller. On est vraiment maintenant dans une situation où il faut réarrondir dans l'aménagement du territoire. Alors trop d'archéologie tue aussi l'archéologie. Il faut quand même laisser le territoire s'aménager. On ne veut pas empêcher d'évoluer, on ne veut pas empêcher de construire, mais il faut quand même qu'on ait une action raisonnée. Bon, il y a des services qui sont là pour ça, le service régional de l'archéologie veille, mais ses moyens sont limités, et à tous les niveaux, nos moyens sont limités. Donc, il faut admettre ce constat, qu'on détruira toujours plus d'archéologie qu'on en fouillera, mais il faut aussi s'avouer que fouiller, c'est détruire, mais détruire de manière raisonnée. Donc on va continuer sur cette serrure, hein, qui est un très bel objet, qui est actuellement en cours de restauration à Arc Nucléaire à Grenoble, donc qui a subi un traitement spécifique, parce que quand le bois est enfoui sous terre dans l'eau, tous les éléments nutritifs du bois sont remplacés par de l'eau. Donc quand on sort l'objet de son terrain dans lequel il a été enfoui pendant 2000 ans, bien, l'eau s'en va et le bois s'effondre. Donc il a été dans un bain où les résines ont progressivement remplacé l'eau et ensuite il peut avoir un traitement nucléaire pour stabiliser ce changement, ce processus. Donc là actuellement, dans l'exposition qui a lieu au musée de Chelles, c'est un moulage qui est en présentation, mais on peut le voir à l'échelle 1. Alors justement, quelques comparaisons. Parce qu'on s'est dit, cette serrure posait question. Bon, c'est un type de serrure qui est connu. Vous voyez, donc, j'en ai mis Dongo et Bambara dans l'Afrique de l'Ouest, on est sur le même système. Et à gauche, vous avez la reconstitution d'une serrure qui est quand même du 4e millénaire avant. Donc, c'est, il faut, voilà. C'est ça, c'est les idées, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais une idée, quand elle est bonne, ben, elle ne change pas. Et ces serrures, elles vont donner maintenant à. Naissance et nos serrures à trois points, mais bon, on est dans le même esprit, ça n'a pas bougé. L'idée était tellement bonne qu'elle va changer de forme, mais elle va rester. Alors, voilà, donc le petit résumé de comment s'est transformé Chelles, puisqu'on est toujours sur cet aspect de la transformation. Donc voilà, au dernier interglaciaire, Chelles ressemblait à ça. Donc en jaune, vous avez le passage du méandre, dit méandre de Chelles. Ah, vous voyez, il a beaucoup évolué, donc en rouge, son premier passage. À un moment, à la fin de la glaciation, comme les glaciers ont rejeté énormément d'eau, il y a eu une énorme pression dans la rivière, donc il y a tous ces chenaux qui sont créés et qui ont entaillé les dépôts intérieurs. Et au fur et à mesure, il y a eu une évolution, vous voyez, jusqu'à ce que ça se rétracte et que finalement, le méandre en rouge en haut disparaisse totalement. Et ça, c'est les 10 dernières années d'archéologie dans la vallée de la Marne qui ont permis de mettre en évidence. Bien évidemment, beaucoup de géographes avaient appelé ce secteur le méandre de Chelles, mais on n'avait aucune idée de savoir comment il avait évolué et quand il s'était définitivement bouché. Et la dernière fouille sur la rue Gustave Nast a montré que, de manière assez pertinente, que sa fin commence au 1er siècle après Jésus-Christ. Et voilà, actuellement, le cours de la Marne, ça ressemble à ça. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Alors, rencontre avec les objets du quotidien, la typologie, l'objet et son évolution comme outil de datation, et la réutilisation des objets comme matière première. En premier lieu, voilà, des typologies céramiques. Ah, là, on a des contenants. Mais là, sous les yeux, on a trois périodes. En haut à gauche, vous avez des vases néolithiques. Ici et ici, on a des céramiques romaines, et ici, on est dans les céramiques du haut Moyen-Âge, des céramiques mérovingiennes et carolingiennes. Donc vous voyez qu'on est toujours sur la même forme, une céramique, mais qui va évoluer au cours du temps et nous permettre, nous, en faisant des espèces de dictionnaires des formes, de pouvoir dater de manière précise les sites. Et même, on pourrait regarder cette image en bas à gauche, où on voit des cruches, mais ici, il y a trois siècles de cruches. D'une période à l'autre, la cruche va évoluer. Alors, bon, ça, c'est question de spécialiste, ça, c'est rapport avec le céramologue, mais le céramologue va voir le petit détail qui va faire que cette cruche va être du 1er ou du 2e siècle ou du 3e siècle. Et ce n'est pas un élément qui va dater un site, mais c'est un faisceau de présomption et d'accumulation d'informations qui vont permettre d'amener à une datation. Pareil, donc voilà, sur d'autres objets du quotidien, alors plus féminin, la parure, les fibules. Donc à gauche, deux types de fibules. En haut à gauche, on est sur des fibules gallo-romaines. Bon, c'est un type spécifique que de pan, qu'on voit évoluer. Hein. Vous avez vu que les quatre du haut n'ont pas tout à fait la même forme, ni mais les mêmes dimensions. Et en bas, on est sur de la fibule en C symétrique, qui sont carolingiennes. Le même objet, mais qui a évolué. On est toujours sur cette idée de mode. Alors, je ne sais pas si on voit bien aussi les monnaies. Alors, la monnaie gauloise, le Gaulois utilise la monnaie pour la première fois sur le territoire national, mais c'est une importation de Grèce, puisque les Gaulois et les Grecs commerçaient, ils se sont rendus compte qu'il y avait effectivement matière à utiliser ce moyen de faire du commerce qui était la monnaie. Et les premières monnaies gauloises, on le voit bien ici, eh bien, en fait, sont juste des copies stylistiques des premières monnaies grecques. Mais à force de copier le style, on voit bien par exemple ici que la forme va, pas dégénérer, mais évoluer, évoluer stylistiquement de manière intéressante. Tant et si bien que quand on regarde cette monnaie-là, qui est à l'origine de celle-ci, il n'y a plus beaucoup, ça ne se ressemble plus beaucoup. Mais ce qui comptait sur la monnaie, c'est son poids, donc sa valeur. Mais on voit aussi là cet autre outil qu'on a pour la datation, qui est la numismatique. Alors là, un petit peu d'humour, mais là aussi, on va faire appel à la fibre, développement durable de la population. Donc un objet non consigné produit en masse, l'amphore, ou que faire d'un contenant en l'absence de service de recyclage. Parce que à Rome, alors c'est ici le Monte Testaccio, ça ressemble à une colline, c'est un terril d'amphore. Ça fait 45 mètres de haut, c'est situé ici, près du port de Rome, c'est-à-dire que pendant du 1er au 3e siècle, toutes les amphores qui arrivaient et qui étaient vidées de leur contenu étaient jetées au même endroit. Et voilà, et ça donne ça. Bon, c'est un site touristique aujourd'hui, mais ça nous fait aussi réfléchir sur notre impact à l'environnement et nos décharges actuelles, parce que ça ressemble à nos décharges actuelles qu'on voit fleurir dans les campagnes, qui finalement sont couvertes de terre et engazonnées parce que c'est plus joli, mais ce ne sont jamais que des décharges. Donc on voit déjà qu'il y a 2000 ans à Rome, il y avait vraiment un vrai problème d'écoulement des déchets. Bon, cependant, l'amphore peut être réutilisée à d'autres fins, on va le voir ensuite. Elle peut être aussi broyée pour entrer dans la composition des tuiles. Et comme on le voit ici, sur deux fouilles réalisées par l'INRAP à Fréjus et à Arles, les amphores sont réutilisées ici pour faire une canalisation et ici pour faire les fondations dans une zone humide. Donc, bien évidemment, c'est réutilisé, mais c'est une vraie question que la gestion des déchets et que l'on rencontre, plus on va avancer dans le temps, et bien évidemment, plus ça va être important. Pareil, on a des réemplois architecturaux, ici sur la fouille du collège d'Exercle-Rachel, ce puits, un puits tout à fait anodin, dans lequel on voit ici ce chapiteau qui a été réutilisé. Alors, Chelles est située dans un secteur où il n'y a absolument pas de calcaire, on n'a que du gypse, du sable et de la boue. Donc, dès qu'un bâtiment ne servait plus, il était démonté pour en faire un autre, à l'image des temples égyptiens ou des temples en Asie, qui ont été retournés plusieurs fois parce que de toute façon, il n'y avait pas de matière première. Donc là, on se trouve sur des obligations et sur des nécessités de faire des choses avec ce qu'on a sous la main. Alors, pour finir, parce que moi, j'étais toujours dans mon idée de communication et de restituer l'information, donc il existe plusieurs voies qui sont la médiation, la publication et la diffusion. Donc là, je vais un petit peu parler de ma maison INRAP. Où on voit ici, par exemple, à la Ville européenne de la science au Grand Palais en 2008, où l'INRAP avait fait un stand, justement pour apporter l'archéologie au grand public et le rendre le plus compréhensible possible. Alors, deux niveaux de présentation étaient faits, qui sont pertinents et intéressants, parce qu'il y avait un aspect scientifique et technique qui m'est cher, puisque à droite, ici en bas, vous voyez une coupe stratigraphique, idéalisée, puisqu'il y a toutes les périodes, et ici, une présentation en plan des vestiges. Alors avec, bien évidemment, c'est un peu un effeuillage, l'archéologie. On enlève la couche du dessus, puis la couche du dessous, et ainsi de suite, et on descend. Donc au premier plan, ici, la préhistoire. Au second plan, ici, le néolithique, les âges des métaux. Et ensuite, l'Antiquité, le Haut Moyen-Âge, et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, j'ai participé à cette animation, c'était très enrichissant parce que sur 3 jours, on a eu plus de 10 000 visiteurs à qui on a essayé de faire passer le message de pourquoi en faire de l'archéologie, à quoi ça sert, et pourquoi il faut continuer à en faire, et pourquoi il faut qu'on vous communique nos informations. Vous voyez ici, cette coupe stratigraphique est intéressante parce qu'elle prouve aussi, elle montre, mais à l'évidence, que plus on est nombreux, plus la société se complexifie, et plus on pollue et plus on interagit sur notre environnement. En bas, la couche du bas, toute fine, peu épaisse, correspond à la préhistoire. Donc la préhistoire, peu de population, très peu de production, des gens itinérants et qui finalement laissent très peu de traces. Ensuite, on arrive au néolithique, aux âges des métaux, néolithique, premier village, donc première construction. Donc on commence à avoir des productions de céramique, des choses qu'on casse, qu'on va devoir rejeter. Donc déjà, et puis quand votre bâtiment en terre, en bois est abandonné, il va fondre, donc laisser un dépôt sur place. On commence déjà à avoir une dilatation de la couche archéologique. Et voilà le grand boom, l'Antiquité. L'Antiquité, on fait des villes, on fait des rues, on fait des égouts, on produit en masse, on est déjà dans la première industrie. Il y a quand même des fours de potiers à la Drôme-Zande, dans le sud de la France, qui ont produit des millions de céramiques qui ont été exportées dans l'Europe entière. Donc c'est là que ça commence à vraiment changer et la physionomie des implantations et l'impact que ça a sur l'environnement. Ensuite, ici, une nécropole due au Moyen-Âge, le Moyen-Âge. Et on commence à voir descendre nos murs de plus en plus profondément et commencer aussi à interagir vers les sur les vestiges qui sont déjà déposés. Donc en fait, on va tout le temps détruire ce qui s'est passé avant. Et en fait, là, tout en haut, on est au XXe siècle. Donc, vous voyez, là, ça c'est une coupe stratigraphique qui pourrait très bien être rencontrée à Paris. On a 3-4 mètres de hauteur, mais on voit à quel point, au fur et à mesure, on modifie notre espace et on le transforme. Ça ne s'arrête jamais. Donc voilà, alors des outils de communication plus contemporains que je vous invite tous à aller visiter. Donc le site institutionnel de l'INRAP qui vous permet de voir des petits films qui vont vous faire vivre l'archéologie et aussi des visites interactives de sites et pas mal, beaucoup d'informations sur les périodes. Donc vous pouvez traverser cette grande frise chronologique qui va du paléolithique inférieur aux périodes modernes. Vous voyez, rien n'est abandonné. La bouteille de Cronenbourg, la canette de Coca, ben je suis désolée, mais ce sont des objets archéologiques parce qu'ils sont représentatifs de leur période. Chaque chose a un sens et réintroduit dans son contexte permet d'interpréter d'autres éléments. Et sur ce site, sur ces frises interactives, donc vous pouvez voir les structures politiques, les religions, les croyances, les sanctuaires, tous les champs d'exploration qui sont abordés dans l'archéologie. Et je crois que j'ai fini sur la présentation et que je peux éventuellement répondre à des questions si j'ai pas été trop bavarde. Bon, d'accord, le public n'est pas super nombreux ce soir, mais il est de qualité. Voilà. Globalement, moi, ce que j'ai expliqué, c'est qu'à l'origine, l'archéologie, c'est l'archéologie de l'objet. Techniquement, ce n'est plus l'archéologie de l'objet. Alors bon, on ne va pas être totalement hypocrite, faux cul, à dire qu'on n'aime pas trouver de beaux objets. Ça, on a tout ce côté enfantin. Les enfants aiment les trésors, donc on est resté un peu enfant, donc on aime toujours les beaux objets. Mais ce qu'on aime là, autant l'archéologie, c'est de comprendre des phénomènes, de saisir des évolutions, d'essayer de comprendre des passages, pourquoi on va changer, pourquoi on va évoluer. On est plus sur des aspects contextuels et de société que sur des objets. Mais bien évidemment, l'objet, c'est le dénominateur commun, c'est ce qui va nous permettre de dater, donc on revient toujours à l'objet. Mais vraiment, on s'est détaché de cette archéologie trésor. On est dans une découverte, dans une globalisation de la découverte. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est dans ce sens-là qu'on essaye aussi de l'apporter au plus jeune public. Parce que je pense que c'est une éducation, je veux dire éducation de masse, mais si. Parce que l'histoire, c'est important. On ne peut pas vivre sans racines. On ne peut pas évoluer et grandir sans avoir un minimum de terreau commun. Et là, c'est vraiment important, c'est dès l'école. Alors, le problème, c'est que les programmes changent tout le temps. Ouais. Moi, j'ai eu une rencontre avec un enseignant dernièrement. Bon, évidemment, on ne se présente plus parce que les profs d'histoire géo ont été extrêmement décevants avec nous. Donc, on se cache. Hein. On est archéologues, on ne sait pas vraiment des parents d'élèves. Mais nous, on a vu le programme. Et ce qui nous déçoit énormément, c'est que toute l'évolution de l'archéologie depuis 20, 30, 40 ans n'arrive pas toujours pas dans les manuels scolaires. Et on va laisser des parts énormes. On est toujours sur un... à mon sens, j'ai 45 ans aujourd'hui, pratiquement. Et j'ai toujours le même programme que quand j'étais en sixième. Et je me dis, mais le programme aurait pu évoluer. Donc, bon, c'est super l'Égypte. Je ne critique pas mes collègues égyptologues. Je m'en excuse auprès des égyptologues aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'ouverture pour l'archéologie du quotidien. Et c'est le quotidien. Il faut montrer aux gens que ça n'a rien d'extraordinaire. Voilà, que M. Jourdain faisait de la prose ou de la poésie en parlant, eh bien, on peut faire de l'archéologie au quotidien. Tout est archéologie. Enfin, c'est la façon dont on va donner une importance, un vestige, à une structure. L'archéologie contemporaine, c'est aussi sauver le patrimoine d'aujourd'hui. Le patrimoine industriel est important dans le développement de nos sociétés. Ben, on va raser des pans entiers d'usines, on va raser, par exemple, prenons les voies ferrées, le réseau ferroviaire. Alors avant, bon, alors on parle de ferroutage à tout bout de champ, là je vais laisser ma fibre au développement durable et puis embouteillage qui râle un peu, mais on nous parle à tout bout de champ de ferroutage, et qu'est-ce qu'on passe, les pouvoirs publics passent leur temps à démonter les triages. Donc c'est bien sûr que si on démonte les triages, il n'y aura pas de ferroutage, on n'est quand même pas totalement stupide. Et on se rend compte que les structures qui étaient sur ces triages sont des structures uniques, et elles sont rasées, il n'y a pas de traces. Et dans 30 ans, on sera tous à pleurer comme des niveaux parce qu'on n'a rien gardé. Donc le patrimoine, il se construit avec ce qui s'est passé avant, avec ce qu'on a aujourd'hui, et avec ce qu'on doit garder pour demain. Il faut arrêter de dire qu'il faut raser pour construire. Il faut raser pour construire, oui, mais comment? Et où est l'intérêt de conserver ou de ne pas conserver des choses? Et en ça, bon, je ne suis pas américano-américaniste, hein, bien au contraire. Aux États-Unis, moi, je trouve que c'est un phénomène délirant de l'autre côté de l'Atlantique. Et eux, ils ont moins de passé proportionnellement que nous. L'homme américain en lui-même, archéologiquement, est relativement récent aussi. Je ne sais pas, il remonte à 15 000 ans, mais vraiment, eux, ils ont une histoire à tous les niveaux très courte. Eh bien, ils donnent une importance, oui, c'est clair, mais ils donnent une importance à tous les vestiges, et ils vont jusqu'à, voilà, leur histoire, et ils vont jusqu'à déplacer des bâtiments parce que c'est une histoire, c'est un moment, c'est important. Nous, on va se dire, oui, alors on va le démonter, et je crois qu'à Paris, dans un des grands hôpitaux parisiens, il y avait un bâtiment assez ancien qu'ils voulaient conserver, ils l'ont démonté, ils l'ont mis dans un coin, j'attends de le voir remonter. C'est cette chose-là, c'est de dire, c'est ce mauvais aspect de la pension, de dire, ah oui, mais on a fait un effort, on l'a fait, mais quel va être l'effort supplémentaire pour aller au bout de la démarche? Il ne faut pas s'arrêter au milieu du chemin. Il ne faut jamais s'arrêter au milieu du chemin. Parce que si tous nos prédécesseurs dont je vous ai présenté les productions s'étaient arrêtés au milieu du chemin, ben là, on ne serait pas là. Donc soyons... soyons attachés à nos valeurs, défendons ce qu'on croit. Ça aussi, ben voilà, ça s'est aussi porté par la discipline qui me fait vivre, hein, quand même depuis une vingtaine d'années, et que moi je fais vivre en y contribuant. Voilà, c'était.
En même temps, il y a une confusion de gens signes en France, en particulier en Europe en général, qui fait qu'on ne peut pas tout conserver.
C'est ça, trop d'art, voilà. Mais. Trop d'archéologie tue l'archéologie, mais il faut réfléchir. Mais bon, c'est fait quand même. Mais il faut être conscient de ce qui disparaît. Voilà, bon, après, on nous dit, oui, on n'a pas conservé. Mais bien évidemment, mais il faut le faire quand même. Et il ne faut pas. Le problème, ce sont les intérêts économiques. Et l'intérêt économique prime. Voilà, et c'est ce que je dis. On a plus détruit en 50 ans qu'en 2000. Et à la vitesse où ça va, même s'il y a profusion, bientôt, il n'y aura plus grand-chose. Et puis, ce qu'on pense, je vous dis, maintenant, quand on fait 4-5 niveaux de parking, bien évidemment, à part aller chercher les dinosaures un peu plus bas, il ne reste plus rien. Il ne faut pas être en position d'avoir des regrets, d'être passéiste et de se dire, ah, on aurait dû. C'est qu'on fait ou on ne fait pas. Mais je veux que les gens aient la possibilité du choix. On ne doit pas vous l'imposer, le choix, il doit être discuté. On ne peut pas décider pour des gens de leur imposer l'oubli comme référence culturelle. C'est ça l'idée. Non mais c'est ça. L'oubli, c'est pas bon. Alors, trop rabâcher les choses, c'est pas bon non plus. Mais vous devez avoir le choix de savoir si vous voulez vous souvenir de quelque chose ou pas.
Ça veut dire qu'à chaque construction, il faudrait avoir cette possibilité.
C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est ça l'archéologie préventive. À chaque construction, techniquement, on intervient. On vient faire un diagnostic, mais tous les diagnostics n'ont pas donné lieu à des fouilles. Et ce n'est pas parce qu'on trouve quelque chose qu'on va faire des fouilles. Il y a des choix qui sont faits par rapport à la qualité des vestiges, à l'intérêt du site, à sa cohérence par rapport à une étude plus générale. Mais ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. Mais malheureusement, ça construit plus vite que nous, nous intervenons. Et c'est difficile. Et on est sur des moyens limités. Alors, je vais juste parler un peu boutique. L'archéologue, il n'a pas un temps immémorial pour travailler. On est dans la contrainte économique, dans l'aménagement du territoire, comme je vous l'ai dit. Donc, en fait, on est régi par des contrats de fouilles, des délais et des budgets. Donc, quand on a dépassé le temps, dépassé le budget, on s'arrête. Et pourtant, on est têtu, obstiné, entêté, mais quand on ne veut plus, on ne peut plus. Et c'est ça, je veux dire que les sauveteurs du patrimoine que sont les archéologues, à un moment, j'ai plus d'énergie non plus, et il faut que la population soit consciente de ça. Et malheureusement, c'est pas du tout ce qui ressort dans les médias, même si, par exemple, moi, je travaille à INRAP, qui travaille beaucoup sur cette espèce de diffusion de l'archéologie au quotidien, on a vraiment beaucoup de mal à nous faire entendre. Moi je vais vous dire, l'INRAP est issu d'une loi de 2000 qui crée un Institut National d'Archéologie Préventive, parce que nous croyons que l'archéologie, c'est du service public, c'est du service citoyen, puisque de toute façon, c'est un patrimoine commun, il m'appartient, il vous appartient, il vous appartient. Mais le problème, c'est que le législateur en 2003, il a dit « Ah ouais, mais non, les archéologues, ça coûte vachement trop cher. » Et donc, la loi de 2003 a institué l'ouverture à des boîtes privées aux fouilles. Donc, il y a des boîtes privées d'archéologie. Donc, on est en train de transformer un patrimoine collectif en denrée commercialisable. Et ben voilà, vous voyez. Donc, c'est aussi une question sur le patrimoine commun. Est-ce qu'il doit être sur un rayon chez Carrefour? J'en sais rien, je suis pas sûre. Ça appartient à tout le monde. Donc, c'est le patrimoine de l'humanité. Mais une fois qu'on a conscience de ça et qu'on veut bien aller dans les musées, rencontrer les gens et tout, je trouve qu'on a déjà fait une énorme démarche. Et mon autre coup de gueule, c'est, mais je l'avais déjà, Annie Agopi, on l'a déjà entendu, je suis contre les journées de tout. Parce que c'est pas parce qu'on a deux journées du patrimoine dans l'année que le patrimoine il n'existe pas le reste de l'année. On a la journée du cinéma, on a la journée du développement durable, mais c'est des choses qu'on doit faire toute l'année. Mais ça, c'est pas expliqué quand on vous propose ces choses-là. Bientôt, je sais pas, on aura la journée du slip. Hein, non mais franchement, au point où on en est du ridicule. Alors, c'est bien qu'il y ait ces jours-là parce que ça met un point d'orgue, mais les journées du patrimoine, ce n'est pas que un week-end du mois de septembre. Ou alors effectivement, mais alors tout le monde se rue dans tout ce qui peut être ouvert, et le reste du temps, gratuit. Mais il y a des structures qui sont gratuites et qui ne vont pas tant de monde que ça, parce qu'il y a la journée du patrimoine, et le reste du temps, les gens ne vont pas faire le patrimoine, ils vont aller faire les courses. Désolé, on est dans un supermarché. Non, mais je veux dire, voilà, c'est. On doit rentrer, on est dans le système, on l'accepte, mais il y a un moment où aussi on doit dire au système, oui, mais nous aussi on a une existence qui est propre et qui ne peut pas totalement se rentrer dans les boîtes du système. On ne peut pas tout le temps être régi que par des aspects comptables. En plus, on tasse des bonnes volontés. Et là, les lois qui ont été établies pour l'archéologie préventive, au début, avaient fait des erreurs. Mais bon, par exemple, ce sont les bénévoles qui ont plus pâti, les bénévoles qui faisaient de l'archéologie pour le plaisir. Parce que, bon, c'est un métier qui fait souffrir, mais on peut le faire pour le plaisir. Et ça avait été. C'était des volontés qui avaient été cassées. Je ne suis pas populiste, mais il y a un manque d'ancrage dans le quotidien. Et l'archéologue, ce n'est pas un extraterrestre, quoi. Donc. J'ai des enfants, j'ai un appartement, j'ai une voiture, je paye des impôts, je suis comme tout le monde. Et tous mes collègues sont comme tout le monde.
Est-ce que par rapport à vos recherches, vous avez une liberté de choix des endroits
où vous faire des
recherches? Non. Ou c'est imposé?
C'est cadré par la loi. Ah non, non, c'est.
Il y a une volonté d'orienter la recherche vers tel ou tel type de découverte?
Non, je me suis mal exprimée. En fait, c'est toujours sous-tendu par la réalisation des diagnostics qui vont mettre en évidence des vestiges. Mais c'est bien évidemment que selon ce que j'ai abordé au début, les compétences chronoculturelles, les gens vont choisir des domaines d'activité, des secteurs. Mais non, on ne va pas aller faire des trous n'importe où. Maintenant, il y a deux archéologies. Globalement, il y a trois archéologies. J'avais mis dans la présentation. mais bon, j'avais peur que ce soit un petit peu lourd et redondant. Il y a trois archéologies. Il y a l'archéologie collective, qui est principalement faite par plusieurs acteurs, qui sont l'INRA, puisque c'est une structure nationale, des services territoriaux, municipaux, régionaux, départementaux, et par des boîtes privées. Donc, ces trois acteurs-là font trois types, enfin, font l'archéologie préventive. Il y a une autre archéologie qui est l'archéologie programmée, qui est plus l'archéologie des chercheurs, qui peut être fait par des chercheurs du CNRS, donc quelques personnes de l'INRAP, qui peuvent être aussi fait par des enseignants d'université et des associations. Et ça, c'est des surfaces toutes petites sur des sites de manière pluriannuelle. Bon, ça avance, mais ça avance. C'est une archéologie un peu artisanale et familiale, mais qui compte aussi parce qu'ils ont sans nous, on va voir en préventif de plus grands espaces, mais alors sur des durées super courtes, mais avec beaucoup de moyens, eux vont voir des petites surfaces, mais vont avoir le temps de les exploiter. Disons que les deux sont compatibles. Et ensuite, il y a l'archéologie expérimentale. On s'amuse avec l'homme de Cro-Magnon et à faire nous-mêmes aussi. Voilà, il y a plusieurs domaines. Et tout ça, ça fait une cuisine assez détonnante, mais tout est complémentaire. Mais bien évidemment, il y a plein d'endroits où je voudrais aller faire des trous. Et en plus, il faut une autorisation pour faire un trou à tantôt. Si vous découvrez quelque chose dans votre jardin, dans le cadre de votre immeuble, ben, il faut une autorisation pour aller vérifier. Voilà, donc ça c'est.
Est-ce qu'il y a une part importante de votre travail qui est justement de présenter le public ce
que... Oui, c'est ce que je vous présente. Oui, alors justement, nous, une structure, moi je vais revenir sur un petit INRAP, parce que quand même on l'aime, on y est. L'INRAP, je l'aime, j'y suis, j'y reste. Dans le budget d'INRAP, justement, il y a toute une orientation sur ce qu'on appelle la valorisation. En fait, la valorisation, c'est la restitution publique. On a des chargés de com, on est vraiment dans le système. Voilà, on a des informaticiens, on a des statisticiens, on a des chargés de com. Donc, c'est le travail, justement, de restituer vers le public, de faire des publications, d'alimenter le site de l'INRAP et de nous permettre aussi d'intervenir à l'extérieur. Ça aussi, c'est important. Donc, nous, on le fait dans les journées du patrimoine. Maintenant, on fait aussi la fête de la science. Mais dès qu'on peut, bien évidemment, on enlève nos bottes, on enlève nos tirets, puis on va à la rencontre des gens. Et puis aussi, les journées portes ouvertes sur les sites. Ça, c'est un grand moment. Et en plus, c'est un moment qui est unique parce que le site, il est extrêmement éphémère. Donc là, on est dans... c'est une fête. Rencontrer le public et transmettre ce qu'on a trouvé, c'est une fête. Plus que le petit gars qui vient de regarder en sortant du collège. « Oh, dis-moi, t'as trouvé ça le grand-mère au fond du trou. Hein. » Ah ben non, mais c'est un âne. « Ouais, t'as le grand-mère avait des sabots, c'était un âne. » Non. Mais on a aussi ça. Mais même quand on a notre petit voisin banlieue qui vient nous voir et avec qui on discute, eh bien, on arrive à avoir un échange et un intérêt. On accueille aussi des stagiaires de troisième dans le cadre des stages de troisième parce que c'est une entreprise. Hein. Bon, c'est l'institut, mais on va dire, c'est à peu près stage d'entreprise. Donc, on essaye vraiment au maximum d'aller à la rencontre de tous les publics. Justement, c'est le bout de la chaîne. Parce que ce serait super égoïste de faire de l'archéologie pour nous-mêmes. Quoi. Bon, c'est comme si les artistes d'art contemporain ne le faisaient que pour mettre dans leur salle de bain, ou si les peintres de la Renaissance n'avaient peint que les murs de leur appartement. Enfin, vraiment, c'est tous ces niveaux, c'est des niveaux de la culture. C'est... Non mais je peux répondre. J'ai plein d'idées. Voilà, donc j'espère que j'ai un peu... Donc un peu dépoussiérer l'aspect de l'archéologue et de l'archéologie, montrant que c'était une discipline des sciences humaines, moderne, enfin même futuriste hein, dans certains aspects, parce que je ne me suis pas agrémentée de présenter des restitutions en 3D, des choses qui bougent, des choses qu'on constitue. On travaille aussi dans ces domaines-là, on va travailler pour faire des moulages, on fait des restitutions. Il y a un tas de niveaux d'implication qui est intéressant. Et qui permettent de plus en plus, enfin, on l'espère, hein, d'aller vers le public et de désacraliser. C'est ça, je pense, c'est peut-être l'expression qu'il faut apporter, c'est désacraliser l'activité. L'archéologue, c'est pas ce qu'on imagine. Alors, Ça, c'est aussi un truc qu'on fait. On va dans les collèges, on fait les forums des associations. On vient avec les autres métiers, alors ils sont tout ça. Enfin, pour l'anecdote, une fois, si on a bien rigolé, avant que vous expliquiez, une fois on était dans un collège et puis on a une jeune fille qui vient ce soir qui j'étais là pour l'esthétique, mais il n'y a personne, alors je vais voir l'archéologie. Je dis, ah bon, tu veux faire l'histoire de l'art? Ben non, je vais être esthéticienne. Bon, voilà, mais bon, on va dans les collèges et puis justement, donc on leur explique que il ne faut pas spécialement être bon dans un domaine, mais il faut être. Peut être bon partout, enfin avoir un bon niveau, enfin correct, bien travailler les langues étrangères parce que c'est super important en archéologie ou autre chose, pas être super bon en maths spécialement, pas avoir fait du latin spécialement, mais c'est par rapport à la façon dont on a d'analyser les choses, parce que bon, l'archéologie c'est de l'hypothético-déductif, donc c'est de l'analyse de données, et c'est d'avoir un bon sens d'observation et un bon sens de l'analyse et être opiniâtre, têtu. Donc là, c'est déjà là, personnellement. Alors une fois qu'on a son bac en poche, alors technique, n'importe lequel, voilà, on va dans une fac d'archéo. Celle la plus proche de chez vous, c'est ce qu'on dit, hein, l'établissement le plus proche de chez vous. Et donc là, à partir de ce moment-là, on peut faire des études universitaires. Alors techniquement, effectivement, on pourrait être technicien de fouille avec le bac. Bon, malheureusement, c'est comme dans tous les domaines, il y a des gens super diplômés, donc maintenant, nous, on a des techniciens de fouille qui ont bac plus 7. Donc voilà, donc on peut faire, donc maintenant ça s'appelle plus le DUG, mais c'est le M1, le M2, enfin L1, L2, M1, M2, mais on peut aller jusqu'à la thèse d'archéo, et il y a, peut-être une dizaine, douzaine de facs en France, enfin, au moins sur Paris, on a Paris 4, Paris 1, Paris 10, maintenant on en a 3 qui font l'archéo, il y a Lyon, il y a Bordeaux, il y a Aix-en-Provence, enfin bon, c'est assez, il y a des pôles archéologiques dans de nombreuses universités, il y a Rennes, et donc une fois qu'on a fait des études, on vient faire de l'archéologie, mais je pense qu'on peut faire des études, mais aussi très très vite tester le terrain, parce qu'on a des gens qui ont été très très vite déçus des conditions de travail. Parce que ce sont des conditions de travail qui se rapprochent plus de celles du BTP. Hein. La fouille archéologique, c'est du terrassement, c'est avoir mal au dos. On n'a pas d'intempéries, donc il pleuve, qui neige, tout le monde qui gèle, on est dehors. Donc quand on a les fluides d'hiver, c'est dur, mais alors, quand on a les fluides d'été, c'est encore plus dur, parce que piocher quand il fait 45 degrés, c'est insupportable aussi. Mais bon, c'est notre métier, on l'a choisi, hein, c'est ce que je dis, hein, c'est pas une profession libérale, c'est une profession délibérée, l'archéologie. Donc, ah oui, 20 tonnes c'est bien, 20 tonnes c'est bien, j'aime bien. Mais non, c'est un très très bon outil. Non mais je vous plaisantez, mais avec un bon conducteur d'engin. C'est ces messieurs que vous décapez, faire des passes de 5 mm. Voilà, ces outils-là, c'est précieux. Parce que par exemple, un bledel pelle mécanique, un bledel fait avec la pelle mécanique, pour nous, c'est 5 heures de travail à main. Donc oui, on a des pelles, mais bon, tout ne peut pas être fait à la pelle. Parce que là aussi, là, il ne faut pas tomber dans un travers. Quand j'ai quitté les formations, hein, ça y est, j'évolue. Il ne faut pas dire que parce qu'on a des engins, on va diminuer le temps et le nombre de personnes pour faire une fouille archéologique. Il ne faut pas tomber dans l'excès de la mécanisation et du taylorisme. Non, parce qu'on est en train de nous vendre ça, en disant « Oui, mais on va vous mettre, vous avez des engins, vous avez moins mal au dos, vous aurez plus d'engins et tout. » Oui, mais enfin, la fouille, l'archéologie, c'est de la réflexion. Donc, c'est de l'esprit. Et l'esprit d'une machine de 20 tonnes avec des chenilles dans lesquelles on met du gasoil, ça n'en a pas beaucoup. Et donc, il faut avoir le temps de réfléchir, parce que le travail de l'archéologue, c'est un travail de choix. En fait, on est toujours déçu et on est toujours frustré. Comme on est dans ces délais, ces contraintes de temps, de contrat, ben, faut faire des choix. Alors on dit, ouais, mais vous faites des choix scientifiques. Un choix scientifique, c'est, ah, je voudrais tout fouiller, je fais quoi? Donc il y a un moment, bon, effectivement, comme on a, comme ils disent les Anglais, le background, c'est-à-dire qu'on a la formation, l'expérience, alors on réfléchit, on a des objectifs scientifiques, hein, dans une fouille, c'est-à-dire qu'on a un cahier des charges, on a une prescription archéologique et on sait, on a une orientation globale. Alors soit on est totalement rétif, on ne va rien faire, soit on est totalement têtu, on veut tout faire, et alors là, on est totalement pété, mais on l'a fait, mais on est content, mais on est mort, et on vous met 10 ans à s'en remettre. Donc normalement, on a cette prescription qui fait qu'on a des orientations, mais ensuite, au niveau de la fouille, faire des choix. Et les choix, c'est s'ouvrir les veines à tous les moments, pas parce qu'on a une pelle qu'on va le faire. Donc moi, je le redis à ceux qui financent l'archéologie, c'est de la sueur et du sang. C'est de l'esprit, c'est de la matière grise, ce sont des gens. Voilà. Et c'est vraiment ce sur quoi je me défendrai toujours. Et parce que là, nous vend un truc super, ça, c'est pas... Ouais, mais vous, c'est pas un métier, c'est une passion. Ouais, mais la passion, elle a mal au dos, elle a mal au pied, elle a une entorse, elle ne peut plus se bouger, il fait moins 5 dehors, alors non. C'est un métier. Et comme tous les métiers, il y a des contraintes. Comme dans tous les métiers, il y a des moments super. Comme dans tous les métiers, on est mal payé. Mais on le fait. Mais voilà, moi, je vais dépassionner les bas. C'est vrai, c'est une passion. Mais il peut y avoir d'excellents plombiers qui le font par passion aussi. C'est un métier. Et il faut le vendre en tant que tel et le présenter en tant que tel. Et plus on comprendra que aux professionnels de la profession aussi, que c'est un métier qu'on a rationalisé, qu'on a construit sur l'archéologie préventive, hein, ça fait 30 ans qu'on en fait. Je suis dans la globalement deuxième génération. Et tous les jours, on contribue à son évolution, à son amélioration. Voilà, c'est un métier. Et donc non, oui, moi je veux bien une pelle mécanique, mais là aussi, je vais vous dire autre chose, c'est super cher une pelle mécanique. Donc voilà, on est après dans la contrainte économique. C'est extrêmement ambivalent, cette société où on veut des choses, mais on ne veut pas que ça coûte. Vous voyez, voilà, on va rentrer dans le débat actuel. On a des vieux, c'est super, on les soigne, ils vont arriver à 110 ans, mais on ne peut pas payer leur retraite. Alors on veut des vieux, mais on ne veut pas de retraite. On veut des gens, mais on ne fait pas de structure. On veut des enfants, mais il n'y a pas de crèche. Voilà, moi je ne sais pas, mais bah, c'est une société, c'est complexe, mais à partir d'un moment où on est d'accord pour être à la tête de quelque chose et d'accepter d'être à la tête d'une communauté, eh bien on conçoit que c'est une communauté et que la communauté, il faut s'en occuper. C'est pas lui dire, ah ben non, tu n'auras pas de sucre parce que tu en as trop pris. Voilà, de toute façon, je ne prends pas de sucre. Ouais.
Par rapport aux études, ça, après ces études, est-ce qu'il y a des débouchés ou c'est...
Bon, alors...
Non, j'ai toujours l'impression que c'est un peu comme...
Je vais rendre mon âme à dire que je suis déléguée syndicale. Non, je suis bavarde, c'est tout. En fait, il y a des débouchés, mais alors en ce moment, voilà, nous, les établissements publics, on est soumis à une tutelle, qui est une tutelle du ministère de la Culture. Et donc, alors, je ne suis pas fonctionnaire, je suis CDI, mais je suis non titulaire, comme tous les archéologues de l'INRAP. Donc, on est juste des gens qui existent dans une structure nationale. Et on avait des CDD, des contrats de durée déterminée. Mais le CDD, si on ne veut pas le transformer en CDI, ce qu'on avait réussi à en transformer beaucoup en 2007, 350, c'est beaucoup trop, et bien en fait, il est soumis à 2 mois de carence par an. Donc en fait, les bouts, on les a 10 mois, 2 mois au chômage, et 2 mois de recherche. L'année dernière, on nous a dit, oui, mais attendez, on va contourner, enfin, il y a eu quelqu'un qui a eu une super idée, c'est de contourner la loi et d'inventer un nouveau contrat. Et chez nous, on a un nouveau contrat qui s'appelle le CDA. C'est le contrat d'activité. Donc vous êtes embauché pour un chantier sur un contrat d'objet, dont l'objet c'est le chantier, dans lequel on va vous donner une activité. Donc on a sectorisé, on a fragmenté les tâches de l'archéologue. Donc l'archéologue, alors il y en a un, il aurait le droit de fouiller, il y en a un, il aurait le droit de pousser la couette. Enfin, j'exagère le trait, mais c'est ça. Et non, effectivement, nos collègues bah, qui sont rentrés là-dedans, puisque bah, c'est des débouchés, ils sont super mal payés, super mal traités. Et oui, il y aurait des débouchés, mais si, comme je vous l'ai dit au début, on prenait conscience de l'intérêt qu'il faut donner à l'archéologie de service public. Alors les débouchés, ça va être dur. Comme c'est un métier qui est neuf, hein, comme je le dis, on a une pyramide d'âge assez étonnante, on a tous entre 40 et 50 ans. Les jeunes, hein, entre 40 et 50 ans, je le dis, on croit encore qu'on est jeune. C'est un peu dur en le mettant sur le terrain. Mais donc il est difficile effectivement de faire entrer des jeunes dans la carrière et qui arrivent surtout super diplômés. Moi je suis pas aussi diplômée qu'eux. Mais ils ont aussi ça chevillé au corps. Et c'est pas parce que finalement c'est pas parce qu'il n'y a pas de débouché qu'il ne faut pas y aller. Hein. De toute façon, vous connaissez ça. Hein. Voilà, c'est ça, ça peut évoluer. On peut tous mourir. Non, je plaisante. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où il faut y aller. Quand on a envie de faire moi, je dis à mes enfants, et je dis dans les collèges, vous avez 3 choix. Vous ne travaillez pas à l'école, vous sortez de l'école, vous n'avez rien faire, vous avez envie de rien faire, vous n'aurez jamais rien, vous serez malheureux. C'est clair, quand même, on ne va pas dire que l'aumône qui s'appelle le RSA et qu'on donne aux gamins qui n'ont rien, c'est super pour vivre. Ensuite, vous avez la possibilité, super bien de travailler à l'école, de faire un métier qui ne vous intéresse pas du tout, d'avoir plein de pognon et d'être heureux. Soit vous travaillez correctement à l'école et vous choisissez le métier qui va vous convenir. Vous ne serez pas super riche, mais vous aurez une vie riche. Et c'est ça l'intérêt. Donc je ne veux dégoûter personne de faire de l'archéologie. Je les invite à essayer. On peut en faire aussi en tant que bénévole dans ses loisirs. Et comme ça, on participe à la construction du patrimoine. Mais c'est un métier qui est enrichissant. Bon, un métier qui est un peu exotique. Voilà, mais j'en vis. Mon mari est archéologue. Ouais. Encore un peu comme notre professionnel. Mais bon, on sait de quoi on parle tout le temps. Quoi. Et en plus, ça permet. Non, parce que dans la contrainte de l'archéologie, quand on est en national, c'est ce que nous, on fait beaucoup de grands déplacements. En national. Et ça peut être une contrainte. Moi, pendant 2 ans, j'ai jamais été chez moi. Je claque le week-end. Il y en a qui font ça pendant 5 ans, 6 ans. Donc le conjoint, il a quand même ça à gérer dans son quotidien. C'est d'être tout seul et d'attendre que l'autre rentre. Donc c'est quand même plus facile quand on fait. Non, ça, t'attends pas qu'on rentre. C'est quand même plus facile quand on. Il faut une compréhension de l'activité de l'autre. Là, c'est sûr que. Puis comme on est toujours, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans cette frustration, des colères, des fois, on dit ouais, mais après, tu l'as déjà dit, oui, mais il y a des moments où la colère, elle est extrême. Hein. Il y a toujours à essayer de ménager chacun les susceptibilités. Les élus, beaucoup. Alors, les élus, ils sont trop forts. Les élus, je les aime bien. Hein. Et les élus veulent bien de l'archéologie, mais il ne faut pas que ça coûte. Ils veulent bien du patrimoine, mais il ne faut pas que ça coûte. Alors, messieurs, mesdames, les élus, prenez en compte que c'est une richesse que vous avez tous dans vos communes et que de la perdre, enfin, ne pas vous en rendre compte maintenant, vous ne pourrez pas le rattraper plus tard. Voilà, c'était un message pour monsieur, madame les élus, si un jour ils viennent à m'entendre.